Chapitre 15. Le jour même où le notaire devait notifier à M. Chamontin le premier acte respectueux, Gaston avait abandonné l'hôtel paternel pour venir habiter une chambre meublée de la rue Garancière, une vraie chambre d'étudiant. Tout d'abord, il avait eu la pensée de prendre son logement dans l'hôtel des Médicis pour être plus près de Zize, et il avait fallu qu'elle le priât de renoncer à ce projet pour qu'il se rendît. « Nous nous verrons toute la journée. Vous arriverez le matin d'aussi bonne heure que vous voudrez. Nous ne nous quitterons le soir qu'au moment de vous coucher. Ne donnons pas des armes contre nous à vos parents. » Cet argument l'avait touché et décidé. Il y avait intérêt, en vue de l'avenir, à éviter tout ce qui pouvait paraître justifié les accusations de son père contre Zite. Et dans le présent, il avait à cœur de ne pas causer un nouveau chagrin à sa mère, celui de la séparation était assez cruel. Son fils éloigné d'elle, sans qu'elle pût le voir autrement qu'en cachette, quelquefois, le matin à Saint-Augustin. Comme l'Odéon était fermé au moment où cette installation rue Garancière s'était faite, ils avaient toute la journée à eux, du matin au soir, plus de répétitions, plus de représentations, quelques heures seulement de travail avec la chapelle, auxquelles Gaston assistait, non seulement parce que cela l'intéressait, mais aussi parce qu'il n'avait rien autre chose à faire. Où aurait-il été? Par le fait seul de sa rupture avec son père, toutes ses habitudes se trouvaient changées. Plus de chevaux, plus de voitures, la vie mondaine avec ses plaisirs et ses relations n'existait plus pour lui. Elle coûte cher, la vie mondaine, et désormais, pour assez longtemps peut-être, il était condamné à l'économie. À la vérité, cette condamnation ne lui fut pas dure, et ce fut avec une parfaite indifférence qu'il tomba tout à coup du luxe dans la médiocrité. Elle était drôle, sa chambre d'étudiant, avec son lit en fer et ses meubles en acajou recouverts de rêves grenats. Et ce n'était pas du tout une privation de n'avoir pas de domestique pour le servir. D'ailleurs, Zite, qui ne savait pas comment il accepterait cette brusque transition, avait voulu la lui adoucir, et pour cela, elle avait trouvé que le mieux était de ne pas le laisser livrer à l'ennui. Près de lui, elle saurait l'occuper, le distraire, l'empêcher de trouver le temps long. Et, de fait, les journées ne lui avaient jamais paru aussi courtes, tant elles étaient bien remplies. Après le travail du matin, ils déjeunaient ensemble à l'hôtel des Médicis, puis ils partaient en promenade, soit à travers Paris qu'elle ne connaissait pour ainsi dire pas, soit à la campagne. Ce n'était plus lui qui étudiait leur voyage à l'avance comme autrefois, c'était elle qui, en sortant, le décidait au hasard de l'inspiration. S'ils tournaient à gauche, ils allaient à Cluny, prendre le tramway pour Villejuif et les villages environnants. À droite, ils allaient à Saint-Germain-des-Prés, d'où ils partaient pour Fontenay-aux-Roses ou Clamart. Mais souvent, ils ne s'arrêtaient pas là, et descendant jusqu'au quai, ils s'embarquaient sur un bateau-mouche qui les conduisait à Saint-Cloud ou à Charenton. Cela leur fut aussi un voyage de découverte, car jamais, ni l'un ni l'autre, ils n'avaient été en bateau. Elle, parce qu'elle n'était guère sortie de sa roulotte, lui, parce que les gens de son monde ne vont guère en bateau-mouche. Quel émerveillement quand, assis l'un contre l'autre, à l'avant du bateau, la main dans la main, ils avaient vu le Paris qui borde la Seine défiler devant leurs yeux, serré entre ses quais de pierre d'abord, puis plus librement, quand les rives se font plates et boisées. « Est-ce qu'il y a besoin de dépenser de grosses sommes, disait-elle, pour voir de belles choses ?» Souvent même, ils ne dépensaient rien, et au lieu de prendre le tramway ou le bateau, ils s'en allaient à pied, droit devant eux, tantôt au hasard, tantôt avec un but déterminé. Les musées quand il pleuvait, les Tuileries, le Jardin des Plantes, le Parc des Buttes-Chaumont, Montsouris quand il faisait beau. Que de douces causeries, que de projets, que de tendres paroles d'amour dans ces heures de tête-à-tête. Comme le temps passait! Il ne pouvait jamais croire que le soir allait tomber. Déjà ! Et il se regardait en se souriant. S'il n'était pas trop loin du Luxembourg, il rentrait dîner à l'hôtel des Médicis. Si, au contraire, la route était longue, il dînait là où il se trouvait, modestement, économiquement, et non plus comme au temps où c'était Gaston seul qui ordonnait le menu. Ils n'eurent pas qu'à penser aux promenades et aux plaisirs. Il fallut s'occuper des choses sérieuses, chercher un appartement, choisir son mobilier, et ce fut une grosse affaire pour eux. Ils étaient aussi ignorants l'un que l'autre de ces sortes de choses. Lui, parce qu'il n'avait toujours eu qu'à se laisser vivre, elle, parce qu'elle n'avait pas vécu, et que, dans sa situation de misérable, elle n'avait jamais eu à s'occuper de logement et de mobilier. Pour l'appartement, il fallait qu'il fût dans les environs du Théâtre Français, de façon à ce que Zite pût rentrer le soir sans prendre une voiture. Après avoir monté inutilement des milliers de marches, ils le choisirent rue de Rivoli, au 5e étage, dans une maison qui, par un pan coupé, ouvrait une échappée de vue sur le jardin et la colonnade du Louvre. Tout petit, ne se composant que d'un salon, d'une chambre et d'une salle à manger avec cuisine, il avait l'avantage pour leur bourse de n'exiger que peu de meubles. Sur ce point du mobilier, l'accord s'établit plus difficilement entre eux que pour l'appartement. Rien n'était assez beau pour Gaston, tout l'était trop pour Zite. « Vous ne voulez pas retrouver les splendeurs de l'hôtel de votre père, n'est-ce pas? Eh bien, ménageons notre bourse, disait-elle. » Mais on n'apprend pas du jour au lendemain à compter avec sa bourse, et Gaston, qui n'avait jamais compté avec celle de son père, ne pouvait pas se mettre dans la tête que ses 25 000 francs dépensés, il n'en avait pas 50 000, 100 000 derrière cela. Un autre souci, au moins pour Gaston, fut la question des témoins. Zite avait les siens, son frère et Faré, qui s'étaient lui-même proposés, et Gaston n'avait personne. Car il y avait cela de bizarre dans ce mariage qui, aux yeux du monde, paraissait une si belle affaire pour une comédienne, que cette comédienne allait nourrir son mari et que ce mari se trouvait sans famille, sans amis, sans relations. Lui faudrait-il donc prendre des étrangers? Il restait devant cette interrogation sans lui trouver de réponse, lorsqu'un soir, en rentrant, son concierge lui dit que M. le duc de Paradan était venu dans la journée et qu'il reviendrait le lendemain matin de bonne heure. En effet, à 8 heures, il vit entrer dans sa chambre le duc qui lui tendit la main affectueusement. « Il faut donc venir vous relancer. Pourquoi ne vous voit-on point ? L'opposition que vous m'avez faite était inspiré par l'amitié, non par l'hostilité. En vous voyant prêt à faire une folie, je me suis mis en travers. Vous avez passé outre, ce n'est pas une raison pour que nous ne nous connaissions plus. » Bien que Gaston n'eût pas été ébranlé par l'hostilité de sa famille, ses paroles lui furent douces au cœur. On lui revenait, avant peu la paix serait faite. « J'ai prévenu M. Chamontin, continua le duc, que, tout en vous blâmant, je n'entendais pas rompre avec vous et il m'a laissé ma liberté. À quand ce mariage déplorable? Au lendemain du jour où les délais imposés par la loi expireront. » Et la conversation continua, affectueuse, sur le mariage, le duc voulant que Gaston le mît pour tout au courant. « Et vos témoins ? » demanda-t-il. Gaston ne répondit pas. « Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'être l'un d'eux ? Vous consentiriez. » « Mon cher, vous faites une folie, vous vous mettez une corde au cou. Enfin, tout ce que je vous ai dit à ce sujet, je vous le répète. Mais il n'en est pas moins certain que cette folie voulue par vous doit être atténuée autant que possible dans votre intérêt, aussi bien que dans celui des vôtres. Il ne faut pas que vous vous mariez comme un paria. Cela serait fâcheux aux yeux du monde. Je serai votre témoin. Et comme il ne convient pas que, prenant une part à ce mariage, j'ai l'air de rester quand même hostile à votre femme, je lui offrirai, si vous le voulez bien, sa toilette de mariée. » Gaston était confus de ces témoignages d'affection. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas connu son beau-frère. « Et l'autre témoin ? » demanda le duc, coupant court aux effusions. « Je ne sais trop. Je vais demander à Bacholet de m'assister. Ce sera convenable, il ne me refusera pas. » En effet, Bacholet ne refusa pas. Dès là que le duc consentait à être le premier témoin de Gaston, il n'avait plus de raison pour n'être pas le second. Au contraire, il en avait toutes sortes de bonnes pour vouloir l'être. Les témoins du marié étaient M. le duc de Paradan et M. Bacholet. Cela serait très bien dans les journaux, car tous les journaux parleraient du mariage de Mlle Duchâtelier. Elle était dans le train. Il voulut porter lui-même son acceptation à Gaston, mais il ne la donna qu'à une condition. « Vous comprenez, mon cher, que je ne peux pas être votre témoin sans faire un cadeau à votre femme. Je vous demande de lui offrir son argenterie, je vous en préviens tout de suite. » Gaston voulut refuser, mais Bacholet était obstiné quand il avait une idée en tête. « Je la ferai porter chez vous et nous verrons si vous oserez me la renvoyer. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est à votre femme que je l'offre. » On ne se marie pas sans penser un peu, et même souvent beaucoup, aux cadeaux qu'on recevra. Zit avait fait son rêve, qu'elle avait abandonné tristement, devant la preuve que la famille Chamontin n'acceptait pas son mariage. N'ayant rien à recevoir des siens, elle ne recevrait rien de personne. Aussi, son contentement avait-il été bien doux en apprenant les intentions du duc et de Bacholet. Offerte par le duc, la toilette de la mariée ne pouvait pas ne pas être très belle. Et puis, l'intention la touchait bien plus encore que les cadeaux, si attrayants qu'ils fussent. C'était un rapprochement, le commencement de la fin de la guerre. Ce ne fut pas tout. Deux jours après, elle reçut une lettre de Faré. « Ne croyez pas, ma chère Zit, que cette lettre va vous annoncer que je ne pourrai pas être à Paris pour votre mariage. » Nous y serons à la date fixée, soyez tranquille. En réalité, c'est sous la dictée de ma femme que je vous écris. Ma femme, pour vous remercier du succès d'Ella, qui, à ses yeux et votre œuvre, aurait voulu être votre témoin. Mais, puisque la loi ne le lui permet pas, elle veut au moins affirmer sa reconnaissance par un souvenir, et elle trouve, pour toutes sortes de raisons, que ce qu'elle peut vous offrir de mieux, c'est votre trousseau. Entendez-vous là-dessus avec votre famille, qui, je l'espère, ne nous refusera pas ce plaisir. Ella ne vous a-t-elle pas fait, ma fille ? Comment ne pas accepter ? Comment n'être pas ému de la délicatesse avec laquelle ce trousseau était offert ? La chapelle, qui voyait la joie de Zit et qui, pour la première fois de sa vie, jouait les confidents vrais, un arcase ou un arbate de la réalité, voulut lui aussi avoir sa part dans ce contentement. « Tu sais que c'est moi qui te donnerai ton bouquet de mariée, » lui dit-il un jour. « Vous, mon bon La Chapelle, y pensez-vous ? Je crois bien que j'y pense, ça me rendra si heureux. Et puis, entre nous, ne t'inquiète pas, ça ne me gêne pas. » En réalité, il possédait 18 francs pour tout avoir, et il s'imaginait, en homme qui n'a jamais acheté de bouquet de mariée, que cela devait suffire. Cependant, comme il était prudent, il voulut à l'avance prendre ses précautions et il s'en alla chez un grand fleuriste du boulevard tâter le terrain. Quand on lui dit que le prix était de 50 francs, il fut indigné autant que désespéré. Il alla chez un autre, 60 francs. Puisque décidément c'était le prix, il n'avait qu'à emprunter les 32 francs qui lui manquaient. Cette résolution prise, sa première pensée fut de s'adresser à Joseph. Mais tout de suite, un remords lui vint d'employer l'argent de ce pauvre garçon qui avait aimé, qui aimait toujours Zit si passionnément, à acheter un bouquet pour ce mariage, et alors il eut l'idée de s'adresser à Théodore. Riche depuis qu'il avait épousé sa veuve, Théodore voudrait bien obliger un vieux camarade. Et à pied, il partit pour Nogent. Ce fut Madame Théodore qui le reçut parce que, à ce moment de la journée, après le déjeuner, son mari faisait la sieste. Et comme elle fut très aimable avec lui, La Chapelle eut bon espoir, ce n'était pas une défaite. Après une conversation un peu languissante, elle lui proposa un tour de jardin et, longuement, en propriétaire fier de sa maison, qui était en réalité fort belle, elle lui montra ses serres, son écurie, sa remise, son poulailler. En passant devant un kiosque, elle lui recommanda de marcher avec précaution et de baisser la voix parce que c'était là que son mari reposait. « Au fait, nous pourrions voir s'il dort, » dit-elle. Approchant doucement avec La Chapelle, elle souleva sans bruit le coin d'un store. Il ne dormait pas, mais vautré sur un large canapé, la tête en bas, les pieds en l'air, il se tenait dans une position qui eût fait rire s'il n'avait pas paru souffrir le martyr. Ayant reconnu la chapelle, il se mit sur ses genoux. « C'est toi, mon vieux ? Entre donc » « Qu'as-tu ? » demanda la chapelle. « J'ai, mon cher, que la vie est bizarre. Quand on n'a pas le sou, il faut travailler pour manger, et quand on a le sou, il faut travailler pour digérer. Mon déjeuner ne passe pas. » S'il ne passait pas ce déjeuner, c'était parce que, comme tous les jours, il avait été trop copieux. La veuve, qui connaissait le faible de son second mari, avait voulu le prendre et le retenir par la gourmandise. Et pour cela, elle lui avait organisé une vie plantureuse, le bourrant de gâteaux, allant presque tous les matins à la halle, lisant les livres de cuisine, travaillant des menus savants, lui chatouillant l'appétit du matin au soir. Et comme le mari se prêtait à ses séductions, à la réussite desquelles il travaillait par des apéritifs abondants, il arrivait qu'après chaque repas, il fallait se vautrer sur des canapés pour aider la digestion qui pesait. Discrètement, Madame Théodore s'était retirée. En quelques mots, la chapelle conta son affaire. « Comment donc, ma vieille, avec plaisir, je vais te les chercher. » Mais quand il revint, ce n'était pas 32 francs qu'il rapportait, c'était 200. « Il te faudra des habits pour la cérémonie. Tu me rendras ça quand tu pourras, sans te gêner. Pour nous, nous lui offrirons une garniture de cheminée. Ma femme dit que ça se fait. » « Tu comprends, ma vieille, c'est classique. » Le soir du mariage, Zit et Gaston partirent pour Compiègne, où ils avaient retenu une chambre à l'hôtel du Grand Monarque.